ça pour un euro.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud aux pousses d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour les amis, bien manger et comprendre ce que nous mangeons, voilà le menu jusqu'à midi et demi. Du panier de récolte au panier de pique-nique, nous déplions la nappe à carreaux ce samedi. Pierre Perret va nous rejoindre sur les coups de midi avec son amour des mots et de la langue. Mes bons vivants sont là, ils ont bonne mine tous les deux. Alors en ce moment, son ingrédient préféré en cuisine comme au restaurant, c'est la fraîcheur. C'est Charlotte Langrand du journal du dimanche. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent, bonjour Olivier.
Lui aussi, hein, il cherche la fraîcheur, mais plutôt autour d'un chardonnay, d'un chenin ou d'un melon de Bourgogne. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour. C'est vrai qu'on a envie de boire un peu frais.
C'est vrai. Hein. Pas de glaçons dans le vin, surtout.
Ah non, surtout pas.
Oh, malheureux.
Bon Dieu.
Autour de la bouteille, mais
pas. Oui, voilà. Marion Sauveur sera là pour le journal de la cuisine et bien plus. Et Jean-Luc Petit-Renaud prépare déjà les tartines. Et bien voilà, à table les copains. Alors on l'a vu, hein, cette semaine, même si ça s'est rafraîchi, l'été a démarré sur les chapeaux de roue. Vous avez probablement cuisiné de belles salades, amis auditeurs, et puis des garnitures de saison. Quel est le goût qui a marqué votre semaine, chers amis de l'autre côté du poste et ici à la table des bons vivants? On va commencer par vous, Charlotte, votre goût de la semaine.
Alors moi, j'ai deux livres de recettes qui m'ont redonné le sourire parce qu'ils ont été quand même, ils sortent quand même malgré le confinement. C'est le fait maison de Cyril Lignac qui a cartonné pendant tout le confinement et fait cuisiner les Français. Et les recettes qui tranchent, le carpaccio d'Anne et Thor. Alors ça, c'est de saison, c'est frais. Et puis il y a à la fois des carpaccio de bœuf, mais pas que, surtout beaucoup de poissons, beaucoup d'associations, des graines, des herbes, c'est frais. Comme
très beau
disiez.
Livre, le Cyril Lignac. Et j'ai dîné chez lui, moi, la semaine dernière. Et j'ai dégusté sa fameuse galette d'avocat et tourteau, qui est une petite merveille au Chardenoux, du côté de la Bastille.
Vous avez de la chance, dites donc.
Ben oui, écoutez, j'étais à Paris.
Appelez-nous.
Votre goût de la semaine, cher Olivier?
Les goûts de retrouvailles. Vous savez, quand on attend un ami depuis longtemps et qu'enfin il arrive, ben moi, mon ami, c'est la tomate, mais la vraie tomate de pleine terre. Enfin mûr, ai-je envie de dire, parce que des tomates, on en voit depuis longtemps. Mais j'ai mangé enfin, cette semaine, les premières vraies, bonnes tomates. Il y en a une belle salade là.
Pour vous.
Qui sont charnues, qui résistent un petit peu sous la dent, mais en même temps, qui sont un petit peu sucrées. Et on va les avoir jusqu'à la mi ou à la fin septembre, suivant la météo.
Mi-octobre,
peut-être mi-octobre dans certaines régions. Et ben, je suis ravi de les retrouver. Et c'était mon goût.
Je vous ai fait une salade en votre hommage parce que j'ai mis du vinaigre de.
Xérès.
De vin.
Ah, de vin. Le Xérès, c'est la même chose.
On pourrait, ouais.
Eh bien, je vais les goûter. Tiens.
Eh bien, c'est pour vous et pour tout le monde. Et Pierre Perret, qui arrive tout à l'heure, va en manger aussi. Moi, mon goût de la semaine, c'est un ceviche de maigre avec des petites framboises qui viennent le titiller. Comme ça, j'ai dégusté ça aux Enfants Rouges, qui est un joli restaurant franco-japonisant dans le marché des Enfants Rouges à Paris, dans le 3e arrondissement. Et j'ai pensé aussi, là, Olivier, à vous, j'ai bu un vin nature à base d'un sylvaner avec une belle macération qui donnait presque un côté rose clair à ce vin.
Ce qu'on appelle les vins de macération, les vins orange.
Exactement, vin orange, oui, vous avez raison. C'est plus orange que rose clair. Et c'était délicieux. Il y avait un petit côté aussi oxydatif. Ça pouvait ressembler un petit peu à un cidre du Pays Basque bien rustique. Enfin, j'ai beaucoup aimé, moi, en ce moment, quand il fait chaud. C'est agréable, ça. Allez, avant d'installer la nappe de pique-nique, direction le marché pour découvrir vos idées à emporter. Julien Amat s'est baladé sur celui de Crimée-Curial à Paris, dans le 19e arrondissement. Pique-niquons, les amis.
Je suis cuisinière. Quand nous faisons une pique-nique, je fais très très souvent salade avec du chou blanc, beaucoup de carottes, des oignons. Je peux mettre des mayonnaise, mais mayonnaise je fais tout seul à la maison. Sinon, je peux mettre huile d'olive et un petit peu de citron.
Du bon pain, des bonnes tomates, des sardines, des tartines comme ça, c'est super bon. C'est facile à transporter. J'ai goûté un melon, ouais, excellent.
Alors pour l'instant, c'est courgettes, échalotes, pique-nique classique, on va dire, le taboulé. Qui se fait relativement facilement avec de la tomate, du concombre, du grain bien sûr, du citron, et je mets de la menthe. Là, ici, dans cet arrondissement, j'irai au but de Chaumont. En tout cas, où c'est vert. Je veux du vert.
Ah, le taboulé. Moi, c'est ce que je retiens. C'est vrai que le taboulé, c'est le 4-4 des salades. On peut aussi le customiser. Vous êtes taboulé, Charlotte?
Alors, J'avoue que je ne suis pas très taboulée.
Même avec du quinoa, avec du boulgour.
Ah oui, si, j'aime bien le customiser un petit peu avec du quinoa. Ouais, c'est pas mal.
On peut s'amuser, Olivier.
Et moi, je fais la technique de notre ami Yves Candebord, c'est-à-dire que les graines de taboulé, on les fait gonfler avec de l'eau, mais aussi avec du jus d'orange ou du jus de pomme, et ça donne un côté très très sympa au taboulé. Et après, comme vous dites, on met ce qu'on veut dedans.
Hein. Beaucoup de persil, ça c'est important pour avoir ce côté taboulé libanais ou de la coriandre, c'est délicieux. Vous avez commencé la saison des pique-niques, Olivier ?
J'en ai fait un. Et franchement, j'attends que le beau temps se réinstalle durablement. Mais ouais, j'ai repéré quelques petits coins en forêt.
Ouais, c'est bien ça, à l'ombre. Pour la sieste,
évidemment.
Je vous reconnais bien là, Charlotte.
J'en ai fait un à la maison, figurez-vous.
Dans la salle de bain.
Oui, j'aurais pu.
Frais.
J'ai testé un pique-nique d'un chef qui s'appelle Marc Favier. Et c'était vraiment ce qu'on appelle un pique-nique cuisiné. Il y avait une soupe de melon menthe, un bagel à l'effiloché de cochon, une salade de hareng fumé. Tout ça, c'était vraiment très très bon. C'était
pique-nique chic à la maison.
Pique-nique haut de gamme. Ah oui.
On va en parler justement.
Marc Favier de chez Marcor.
Marcor.
On va faire un joli dossier sur les pique-niques pour vous, amis auditeurs, avec des recettes là aussi de chefs très accessibles. Et puis les nôtres à la table des bons vivants. On a plein d'idées. On a un joli cake méditerranéen. Enfin voilà, on ne vous dit pas tout. Allez, ne bougez pas. On revient dans un instant. La saison des poivrons est ouverte. On vous en parle juste après ça. Puis on va parler des prix du bio, tiens aussi.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
C'est l'été, la saison des légumes-fruits, les tomates, les courgettes, les poivrons, les aubergines. Alors ils arrivent à point pour nous désaltérer et ils nous apportent des fibres et des vitamines quand ils viennent juste d'être cueillis. Alors légumes ou fruits, ça dépend de quel côté on se trouve et on se place, Charlotte.
C'est ça, stoppons la polémique. Donc par exemple, c'est un fruit d'un point de vue botanique. Hein, les aubergines, les tomates, les poivrons, c'est le fruit de la plante qui part en fleur.
Oui, au départ c'est une fleur et voilà.
Mais par contre, c'est un légume du point de vue cuisine et consommation. Donc les deux se disent.
Ah bon, on peut dire les deux, voilà. Alors aujourd'hui, on va récolter le poivron avec Karine Tricard, qui est maraîchère bio à Montpon-Ménestérol en Dordogne. Avant de parler des différentes variétés, un mot sur les prix du bio, hein, parce que j'entends déjà les commentaires. Le bio, d'accord, mais ça coûte cher. C'est vrai que la réponse est oui, souvent ça coûte plus cher, mais ce n'est pas toujours le cas. Et Karine Tricard travaillait autrefois dans la grande distribution et elle tient depuis sa reconversion à ce que les prix vraiment restent accessibles. Et elle en parle au micro de Julien Matt.
Si vous allez direct chez le producteur, vous ne le payerez pas plus cher. Après, si vous passez par les grandes surfaces, souvent, déjà, il y a les intermédiaires qui font que les produits augmentent. Et souvent, malheureusement, les grandes surfaces ne donnent pas une bonne image de marque du bio parce qu'ils disent c'est bio, donc ça doit être cher, donc ils mettent les prix nettement plus chers.
On vient de passer devant les aubergines, devant les poivrons. Vous-même, vous les vendez à combien ces légumes ?
Alors nous, ça va dépendre déjà du moment de la saison. Là, on est en tout début de saison, donc c'est vrai que ça va être un petit peu cher, entre guillemets. On est sur du 3 euros, 3,50 euros. Après, en pleine saison, quand il y a vraiment une bonne production, on peut descendre assez facilement à 2 euros, 2,50 euros le kilo.
Alors, on va faire le comparatif. Tiens, justement, en grande surface, le poivron, en ce moment, on va le trouver, le bio, aux alentours de 4,50 euros le kilo. Donc, elle a raison, la grande distribution gonfle les prix, Olivier.
Hein. Vous savez, le bio est aussi, pour eux, un produit d'appel. Hein. Ils se sont engouffrés, on va dire, dans la filière parce que ça rapporte de l'argent. Et oui, alors ils argumentent sur le fait que ce sont des légumes qui se conservent moins longtemps, donc ils n'ont plus de pertes, etc., etc. La réalité, c'est qu'effectivement, ils se remplissent un peu plus les poches avec le bio parce que les gens veulent du bio.
Donc achetons bio quand on le peut directement chez les producteurs à côté de chez soi. Et là, peut-être que c'est un petit peu plus cher que le conventionnel. Mais encore une fois, on s'y retrouve côté portion parce qu'on va avoir des légumes bien tenus quand ils sont cueillis à la juste maturité et qui ne vont pas rendre d'eau dans la casserole. Donc encore une fois, on s'y retrouve. Alors autre question qui revient régulièrement à propos du poivron, c'est la couleur. Rouge, jaune, vert, il y en a même des violets. Alors est-ce qu'il s'agit de la variété ou du stade de maturité ? Eh bien Karine nous explique.
Alors nous sommes dans la serre horticole, c'est une grosse serre en vert où nous avons pas mal de légumes d'été en fait. Donc à l'heure qu'elle est, nous avons aubergines, poivrons corne de taureau et poivrons de couleur.
À côté des aubergines violettes, il y a des poivrons violets, c'est ça ?
C'est bien ça, des poivrons violetta qu'on appelle, c'est une variété.
C'est par mimétisme, c'est parce qu'elles poussent à côté qu'elles prennent cette couleur ou pas du tout ?
Alors ce sont des variétés différentes déjà à la base, sachant que, mis à part le poivron blanc qui démarre blanc, tous les autres démarrent vert. Donc un poivron vert, c'est un poivron qui n'est en quelque sorte pas mûr. Après, il vire de la couleur de la variété et il finit rouge dans tous les cas.
Donc là, avec un poivron violet, on est au deuxième stade. Il a passé le cap vert.
C'est tout à fait ça. plus le poivron est à maturité, plus il est sucré. Alors le poivron violet n'a pas forcément un goût spécialement différent du poivron vert. Après, le poivron orange et jaune seront nettement plus sucrés. Le poivron rouge, c'est le poivron à maturité qui sera nettement plus digeste.
Ah ben bah voilà, on a bien retenu la leçon là. Ça c'est commence clair. Souvent vert, à part pour le blanc. Et puis ensuite, eh bien, ils vont mûrir jusqu'au rouge. C'est vrai que le poivron violet est amusant. Il va rester vert à l'intérieur. On peut les farcir, les poivrons. On peut en faire plein de choses. Alors attention, tout le monde n'est pas égal devant la digestibilité du poivron. Hein.
Un petit... C'est la peau, c'est ça?
C'est ça, il faut retirer la peau. Hein.
Faut de toute façon retirer la peau, c'est vrai. Mais au plus il est mûr, au plus les digestes aussi. Et je vous avoue que moi, je les préfère rouges, je les digère mieux. Mais, et puis j'aime bien ce petit goût un peu plus sucré qui peut même d'ailleurs donner lieu à des interprétations en sucré, en dessert.
Hein. Oui, c'est vrai.
Des desserts à base
de poivrons.
Il y a des
glaces de poivrons
qui sont assez intéressantes. Et alors pour enlever la peau, on rappelle le truc. Hein. Moi, je les mets dans le four, sous le grill, tout simplement, la peau se met à cloquer. Après 3-4 minutes, on la retire tout simplement.
Ouais, et on peut même mettre le poivron dans un sachet plastique pour qu'avec l'humidité, il se ramollisse bien et la peau viendra tout seul comme ça.
Toute seule.
C'est mieux que l'économe parce qu'à l'économe, on en met partout quand on l'épluche et
c'est
rapidement assez indélébile. Un peu épais.
Un petit peu épais. Poivron farci, ça c'est délicieux ça. Au four avec une belle farce à base d'échines de porc bien relevée avec des épices, c'est vraiment.
Ah oui, ça, c'est comme ça que je les préfère.
Un plat de saison. Et puis la chouchouka aussi, hein, ce fameux plat du Maghreb avec des tomates et on casse des œufs au milieu. C'est délicieux ça.
Gazpacho aussi. Sinon, on peut faire,
un gazpacho
et poivrons confits. Moi, j'adore tout simplement les confire dans de l'huile d'olive avec un petit peu d'ail, un petit peu de thym. On les laisse dans le four comme ça à 80 degrés pendant une ou deux heures. Ils vont confire tranquillement. On les sert froid sur un petit morceau de pain. C'est délicieux.
Et puis là, on rentre dans la saison des barbecues et des planchas. Donc, des poivrons coupés en petites lamelles comme ça, l'huile d'olive sur la plancha ou même entier qu'on va retourner comme on ferait avec une aubergine sur le grill du barbecue. Il va y avoir ce petit côté grillé, même fumé, qui va relever le poivron. Et il se marie bien aussi avec les poissons, le poivron, hein, les sardines, les maquereaux qui débarquent. Donc pensez-y. Allez, ne bougez pas. On va l'emmener en pique-nique, tiens, le poivron aussi. Il a peut-être des trucs à raconter. On revient dans un instant avec des idées de pique-nique. Mais attention, de chef. Juste après ça. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'écouter la table des bons vivants. Alors, on va s'installer au grand air avec notre dossier pique-nique. Même si toutes les régions ne sont pas au soleil, on devrait pouvoir se rattraper dès demain. Pour chasser les nuages, en revanche, nous avons un truc, c'est l'arrivée de Marion Sauveur. Toujours souriante, un vrai rayon de soleil.
Hein.
On est d'accord. Bonjour Marion.
Bonjour, bonjour Marion.
Vous savez, c'est pas répété, c'est unanime. Donc c'est que c'est vrai.
Merci.
Voici les titres de votre journal, Marion. Le bio a le vent en poupe, panique en Allemagne à cause d'un fruit et un pique-nique géant. Le menu du journal de la cuisine. Depuis le confinement, les Français consomment plus bio.
D'après une étude Nielsen ScanTrack, la vente des produits labellisés bio a bondi pendant le confinement de près de 22% par rapport à la même période l'an dernier. C'est trois fois plus que la consommation des fruits et légumes dits conventionnels. Les Français étaient nombreux à penser durant la crise sanitaire qu'en mangeant local et bio, ils se protégeaient du Covid-19. Et depuis le déconfinement, la tendance reste la même si elle ralentit, avec 12% de produits bio achetés en plus que l'an dernier.
Bah quand on peut, c'est un bon réflexe en tout cas. Un bureau de poste a été évacué à cause d'un colis contenant des fruits. C'était où ça?
Ça s'est passé en Allemagne samedi dernier. Les postiers ont cru que le paquet contenait une substance dangereuse à cause de l'odeur pestilentielle qui s'en dégageait.
Sympa.
À l'intérieur, il y avait en fait 4 durians. Le durian, c'est un fruit originaire d'Asie, vert, de forme ovale et recouvert de piquant et à l'odeur vraiment nauséabonde, à tel point que dans de nombreux hôtels ou lieux publics asiatiques, il est même interdit.
Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça fait rêver votre histoire. Les vignerons indépendants organisent un pique-nique géant dans un mois.
Le week-end des 26 et 27 juillet dans 300 domaines dans toute la France. Vous amenez votre pique-nique et les vignerons vous offrent leur vin. Ils vous font aussi visiter leur cave. Bien entendu, des mesures sanitaires particulières seront mises en place. Pour réserver, ça se passe dès maintenant sur le site des vignerons indépendants. Et on continue, Laurent, de parler de pique-nique avec vous, avec des idées de recettes.
Ben oui, restez avec nous parce que vous avez plein d'idées aussi dans votre besace.
Avec plaisir.
J'aime bien ce mot besace.
Oui, hein, panier pique-nique.
Dans mon panier.
Panier pique-nique, c'est bien. Alors, c'est l'été, après des semaines confinées, nous avons envie de nature, de plein air et de pique-nique. Alors, vous êtes nombreux hein, sur la page Facebook du groupe Les Bons Vivants, par exemple, à nous demander des idées de recettes. Alors, on déplie la nappe à carreaux. Tiens, Charlotte, qu'est-ce que c'est pour vous la recette incontournable d'un pique-nique réussi, tiens, déjà?
Moi, j'aime bien emporter du pâté en croûte.
Ah, gourmande.
Je ne les cuisine pas, je vous l'avoue, hein, mais je trouve ça très pratique et très très bon.
Bah oui, mais ça, c'est super, une belle charcuterie, c'est vrai qu'elle a sa place en pique-nique.
Évidemment.
Olivier.
Ben moi, il y a un plat que je mangeais en pique-nique avec mes parents, que j'ai ensuite fait découvrir à mes enfants et que j'emmène toujours. Ce sont des tartines aux œufs. Et j'adore ça.
C'est
des ex-sandwichs comme en Angleterre.
On fait une omelette, une simple omelette, on la laisse refroidir, on prend du pain de mie et on farcit le pain de mie avec cette omelette froide.
Ah, c'est sympa ça.
C'est délicieux.
Ah, j'aime bien parce que c'est quelque chose de très moelleux en
c'est
plus.
C'est très moelleux et puis l'œuf, vous pouvez l'agrémenter de ce que vous voulez. Mais même avec une omelette nature, ça marche. Ou un peu de fromage, ce que vous voulez.
Votre incontournable du pique-nique, Marion.
J'aurais tendance à vous dire que c'est la tomate bien mûre avec juste un petit peu de sel à l'intérieur. Vous savez, ça dégouline sur les joues, mais c'est tellement bon.
C'est ça, c'est vrai que ça rappelle les colonies de vacances. Moi, quand je partais en colo et qu'on faisait un pique-nique, on avait la tomate. Et c'est vrai que c'est une première sensation de manger comme ça ce légume. Fruits, c'est très agréable. Bah moi, mon incontournable, c'est le poulet rôti, quoi. Qu'on le fasse soi ou qu'on prenne l'acheter juste avant chez le boucher, bien rôti à la broche, un bon poulet fermier.
Encore un peu tiède.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Encore tiède, oui, pas trop froid. Non, tiède.
Non, froid,
oui.
Ça casse les goûts. Oui,
je suis d'accord.
Oui,
on est d'accord.
Et que dire d'un bon saucisson aussi, quoi.
Ah, oui. Il est bien rempli, notre panier de pique-nique.
Pas mal.
Un autre incontournable du pique-nique, les copains, c'est la chips. Et on en mange de plus en plus. Est-ce que ça vous donne la frite, Olivier Pouls, vous le Belge?
C'est vrai que c'est en été que les ventes de chips explosent. Alors, je vous épargner tous les chiffres, mais enfin, on est à plus d'un kilo par an par personne. Quand on sait que les chips, ça pèse pas lourd, ça fait quand même des belles quantités.
Oui, c'est vrai.
Alors, c'est vrai que c'est bon, hein, on va pas se mentir, on aime tous mettre la main dans un sac de chips.
Salé.
Évidemment, le problème, c'est que pour d'un point de vue diététique, là, c'est la catastrophe parce que c'est plus calorique que du foie gras.
C'est un piège.
Donc, plus de 500 calories pour 100 grammes. Hein.
Si vous le pouvez, achetez les chips les plus naturels possibles avec le moins d'ingrédients, d'adjuvants. Et puis sinon, faites-les vous-même, les amis. C'est quand même vraiment pas très compliqué. Une friteuse, des pommes de terre, une mandoline, et on fait ses chips.
Et même au four,
quand même, de toute façon.
Elles sont grasses quand même, mais je pense moins grasses. Et puis on va surtout aussi doser le sel.
Oui, c'est vrai qu'il rajoute pas mal aussi d'additifs et d'adjuvants de temps en temps pour les goûts. Il y a une recette amusante, tiens, avec les chips. C'est une recette de Jean-François Piège et une recette du grand chef espagnol Ferran Adrià. C'est une tortilla avec des chips. Ça, c'est quelque chose qu'on peut emmener en pique-nique aussi. On remplace la pomme de terre de la tortilla par des chips avec des œufs et on mélange tout ça et on fait cuire comme il faut, comme une tortilla, on la retourne et vous l'emmenez là aussi en pique-nique.
Et on garde le côté craquant des chips.
Exactement. Alors comment thématiser le pique-nique? Comment rassembler le plus grand nombre? On revient avec des idées de recettes de chefs accessibles et puis des idées de lieux aussi. Ce sera juste après ça. Les vacances approchent, alors c'est l'heure des pique-niques. En attendant de retrouver des recettes de chefs accessibles et puis les conseils de la table des bons vivants, on écoute Bourville. Passe-moi les crudités, tiens.
Bah tiens, lève-la.
S'il te plaît. Bourville.
Passe-moi les crudités, je te donnerai la bouteille. Inutile de compliquer, que c'est si bon de pique-niquer. Oh, que c'est bon sur l'herbe tendre, de temps en temps d'aller s'y tendre, s'alimenter et se détendre, en emportant tout ce qu'il faut. Passe-moi les crustacés, je te donnerai la bouteille et la cuisse de poulet. C'est si bon de pique-niquer quand on est deux pour se comprendre et prendre le temps de s'entendre. En vérité, rien n'est plus tendre. On se regarde dans les yeux. Passe-moi le cassoulet, je te donnerai la bouteille, le plus dur des œufs mollets, je n'en fais qu'une bouchée, car avant nous sur cette terre, songe à tous ceux qui s'allongeaient et ne sont plus qu'ombre et poussière. Crois-moi, profitons-en. Passe-moi le compotier, je te donnerai des merveilles. Inutile de compliquer, c'est si bon de pique-niquer.
que c'est si bon de pique-niquer. Que c'est si bon de pique-niquer.
Ah bah oui, on est d'accord. Le grand André Bourvil, un bel inventaire du pique-nique.
On y est, moi je me vois là au bord d'une nationale choisissant le petit coin, on y est vraiment.
Avec votre cassoulet, parce qu'il a mis du cassoulet.
Oui, alors pas forcément, mais en tout cas la bouteille, oui.
Alors le choix des recettes, c'est vrai, important pour le pique-nique, mais le lieu compte aussi hein, pour beaucoup dans la qualité du moment. Où est-ce que vous aimez pique-niquer, Charlotte? Vous nous avez parlé de votre salon.
Dans sa salle de bain. Elle fait couler un bain, comme ça elle est au bord de l'eau.
Dans mon salon, non, sinon j'aime bien à la plage, moi j'aime bien sous le parasol. Et sinon, je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles j'aime la randonnée. En fait. C'est un petit peu quand même la pause, là, comme ça, en plein milieu, devant un paysage fantastique.
Il y a le Graal, il y a la récompense du pique-nique au bout de la randonnée. Il faut un but hein, pour les randonneurs, bien souvent.
Hein. C'est souvent
Olivier, votre endroit préféré?
Mais moi, j'aime la forêt. Et si en plus, il y a un petit ruisseau ou un petit lac, je suis content. Et surtout, un bel arbre.
Vous le disiez tout à l'heure,
un bel arbre, d'abord pour s'adosser, se laisser glisser ensuite tranquillement. Et sombrer dans une petite sieste réparatrice entre 14h30 et 15h30, voyez-vous.
C'est bien ça, on est bon.
Mais on fait gaffe aux moustiques et aux fourmis.
Oui, exactement. Et on évite les tunnels. Moi, j'ai vu un jour des Belges pique-niquer dans le tunnel de Fourvière à Lyon. Je vous assure que c'est vrai. Je suis désolé de donner la nationalité, Olivier, mais je vous assure que c'est vrai. Il y avait un bouchon et ils ont déplié, je m'en souviendrai toujours, j'étais gamin, à la table de camping sur la banque d'arrêt d'urgence. C'était à l'arrêt pendant des heures.
Ils ont eu le temps de manger.
Ils ont pique-niqué là, à côté. Voilà. Vous, Marion, votre endroit préféré?
Moi, j'ai tendance à aimer la plage aussi, mais dans un parc, tout simplement, avec la nappe à carreaux, entre amis, c'est parfait, en fait.
Tant qu'il y a à manger. En même temps.
Non, on apporte le parasol, sinon on ne bronze pas forcément tous.
Pareil. Avec cette crise sanitaire, on le voit depuis plusieurs semaines, hein, les chefs s'adaptent, et beaucoup d'ailleurs ont misé aussi sur le pique-nique. Et le sandwich est même devenu créatif, loin du jambon-beurre, hein, Charlotte.
Oui, c'est ça. Par exemple, vous avez Amandine Chéniaud du restaurant Pouliche à Paris. Elle, dans son panier, elle met une citronnade maison, un bun brioché avec de la truite fumée.
C'est le pain du burger, hein, le bun.
C'est ça, oui. Et alors, elle met dedans de la truite fumée, de l'avocat, des pignons de pain, un comté affiné 18 mois, hein, s'il vous plaît, de la fruitière de Langon, un bouquet d'herbes aromatiques à ajouter sur une salade ou en infusion. Enfin, vous voyez, c'est quand même un bon sandwich. On est loin du jambon beurre, effectivement.
Oui, c'est le burger revisité, même, là
c'est
aussi.
C'est ça. Et on est autour de 25€ pour l'été. À partir de lundi, vous pouvez vous l'offrir.
Oui, 25 euros le burger quand même, mais voilà, il y a de belles choses. Non, il y a la citronnade,
il y a d'autres choses aussi. Il y a la salade, tout ça.
Des infusions et tout. Ah oui, donc ça
va. C'est un vrai panier.
Je ne sais pas pourquoi on est fâché avec le jambon beurre, parce que quand le pain est vraiment bon, le jambon aussi et le beurre est exceptionnel, excusez-moi, ça reste quand même un des basiques incontournables.
Moi, je suis entièrement d'accord. Non, je ne détrônais pas le jambon beurre, loin de là.
J'espère bien.
Mais en revanche, c'est vrai que le jambon beurre a été détrôné dans le cœur des Français par le burger, mais je suis 100% d'accord avec vous. Une bonne baguette bien croustillante, un bon beurre comme il faut et puis un bon jambon. Alors là, artisanal.
Et des bons cornichons.
Qui se délite et des bons cornichons, on valide quand même. Le pique-nique peut être exotique aussi, Olivier. On a la preuve, par exemple, avec Alexandre Bourdas à Honfleur.
Lui, il nous propose d'emmener des sushis en pique-nique. Alors, pourquoi pas? C'est vrai que ça, c'est facile à manger avec les doigts, peut-être une paire de baguettes quand même. Donc lui, c'est les 12€ pour 10 sushis. Donc c'est quand même vraiment très abordable.
Ah oui, c'est moins cher que les grandes chaînes de sushis. Hein.
Exactement. Et dans les règles de l'art, s'il vous plaît. Donc c'est vrai qu'on peut éventuellement se laisser tenter par ce côté un peu marin du pique-nique.
Oui.
Et puis je pense qu'il emmène aussi des pâtisseries, il propose des pâtisseries qui vont avec le menu et c'est délicieux.
À Honfleur en Normandie, ça se mange vite ça par contre, parce que le sushi on ne l'emmène pas en randonnée.
Et
hein.
Puis on fait très attention à garder quand même un peu la chaîne du froid, parce que le sushi c'est du poisson cru et donc une bonne glacière avec dedans tout ce qu'il faut pour maintenir le froid. Et on ne laisse pas la glacière chauffer dans la voiture pendant 2 jours.
Un petit pique-nique exotique, Marion?
Oui, moi j'aime bien par exemple la bruschetta, pourquoi pas, à l'italienne, un bon petit pain grillé frotté à l'ail avec des petites tomates. Pardon, je reste sur la tomate, mais c'est la saison.
Ah oui.
C'est délicieux, c'est frais et j'aime bien croquer là-dedans.
Bon, on va rester dans le sud, il y a un petit tour en Camargue pour des idées de pique-nique. Alors du taureau, non, du riz rouge, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez sélectionné, Marion?
Eh bien, Armand Arnal fait à Arles un pique-nique pendant tout l'été avec du gazpacho de betterave, des courgettes en escabèche, du caviar d'aubergine à la tomate, une terrine de volaille, une omelette verte, de la soupe de courgettes, de la soupe au pistou, de la salade de pommes de terre. Voilà quelques-uns des plats que vous pourrez trouver dans ce panier. Chassagnier. Ça se passe à La Chassagnette. C'est chez lui, sur son domaine. Et vous venez.
Oui, à côté de Arles. Hein.
Voilà, vous venez chercher votre panier, vous vous posez sur le domaine et vous profitez de la nature.
Et si vous avez la chance d'aller dans le coin et de déjeuner chez Armand Arnal, que vous craignez les moustiques, parce que c'est une région moustique, il y a une moustiquaire géante qui est installée et on dîne comme ça sur cette moustiquaire, mais qui est immense, effectivement. Les tables sont dressées et le pique-nique, il faudra choisir un coin sans moustiques.
C'est
du
ça,
coup,
exactement. Hein, on peut aller voir son potager qui est extraordinaire et ce panier, c'est 49€ par personne jusqu'au mois de septembre.
D'accord, donc c'est un prix conséquent quand même pour un panier pique-nique. Alors là, la question se pose, il ne faut pas se planter sur l'endroit quand on paye le pique-nique de ce prix-là, sinon on va se mettre à table et effectivement, on est sûr d'avoir du service aussi.
C'est ça. Hein,
dans ce cas. Alors ça, ce sont des recettes de chef, mais il y a plein d'idées accessibles aussi qu'on peut tous faire à la maison, par exemple.
Et vous n'avez pas apporté un petit truc, là, par hasard?
Si, regardez, un cake méditerranéen. Je vous l'ai fait hier soir avec amour, parce que j'aime bien l'idée qu'il passe la nuit comme ça, le cake. C'est très simple. Alors, j'y suis allé un peu franco sur l'huile d'olive pour qu'elle apporte du moelleux, des œufs, de la farine, des poivrons, effectivement, on en parlait tout à l'heure, du thon émietté, des olives, alors là, de belles olives noires aussi qu'on va concasser, et un petit peu de parmesan et d'huile d'olive avec du lait pour donner du moelleux. On vous mettra la recette. Il est assez humide, même.
Mais c'est bien, mieux vaut un peu trop humide que trop sec,
parce que
le cake trop sec, c'est vraiment triste.
Je suis d'accord. C'est
mais
peut-être une chanson,
aussi.
Ça, de Pierre Perret.
Oui,
qui sera là tout à l'heure.
Oui, alors que là, on a vraiment tous les ingrédients. Ce côté presque un peu juteux en bouche, c'est délicieux.
Une recette bon marché, tiens, pour aller en pique-nique, Charlotte.
Moi, j'aime bien faire des rillettes de sardines. C'est très simple, ça se tartine après sur le pain avec un petit peu fromage frais, des échalotes, coriandre, un petit peu de capre si vous aimez ça, jus de citron, piment d'Espelette éventuellement.
Et des petits légumes
tout.
Qu'on...
Et voilà, et sinon, oui, on trempe des légumes, du pain, enfin presque. Moi, j'aime bien faire.
Une dernière pour la route, Olivier.
Vous prenez une verrine, c'est assez pratique à transporter. Plein de légumes du moment, des tomates coupées en petits morceaux. Vous prenez une courgette, vous prenez un concombre, une belle mozzarella. Vous mettez tout ça avec des herbes, un trait d'huile d'olive dans votre verrine, vous secouez, ça mélange le tout et il n'y a plus qu'à la déguster.
Et le dessert dans tout ça? Ne bougez pas, on déguste les fruits de saison dans un instant avec Stéphane Lagorce. Vous savez, c'est l'inventeur de la miamologie. On va se régaler avec plein de jolis fruits. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Après une pause pique-nique et avant le plat du jour que nous allons partager avec Pierre Perret, faisons une belle salade de fruits de saison avec Stéphane Lagorce, cuisinier dans une première vie. Il enseigne aujourd'hui les sciences de l'aliment à AgroParisTech. Il écrit des livres passionnants. Il a écrit le traité, plusieurs même, les traités de miamologie. Et aujourd'hui, voici le grand précis des fruits à éplucher et leur recette sans pépins. Bonjour Stéphane Lagorce.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Il est tout frais, alors un très très joli livre, j'adore parce qu'avec vous, on cuisine en apprenant et en s'amusant. C'est ça qui fait tout le sel de vos ouvrages à chaque fois. Pourquoi vous vous êtes intéressé aux fruits cette fois-ci?
Parce que les fruits, c'est un peu un défi. Et quand j'étais jeune apprenti en cuisine chez Jean Delavaigne, il y a fort longtemps, il transforme les fruits de manière si intelligente et si géniale que ça m'est toujours resté dans l'esprit. Et ensuite, j'ai toujours eu envie d'explorer ce sujet qui est sans fin.
Oui, c'est sans fin. Ah oui, puis il y a des choses à raconter. Hein. Le goût, la texture, la cuisson, la structure aussi.
La structure, c'est ça qui est amusant parce que finalement, tous les fruits sont frais avec les mêmes briques de base, des fibres, des sucres, de l'eau, et pour dire vite, des pectines, tout ça. Et en fait, chacun des fruits a un mix un petit peu différent de ces différents composants. Et donc, chacun des fruits a des propriétés et donc des possibilités culinaires différentes.
Alors, c'est la saison de l'abricot. On vous a apporté un abricot, justement. Comment vous le décririez? Qu'est-ce que vous auriez à dire sur l'abricot au niveau de la structure, de la texture? Comment le cuisiner?
On voit bien sa face rouge, donc c'est la face qui était exposée au soleil, c'est pour ça qu'il est comme ça. Il est assez gros, à sa texture, je pense qu'il est, il est pas loin d'être mûr. Le problème de l'abricot, c'est qu'il mûrit en quelques heures. C'est un fruit qui a ce défaut-là, on va dire. Et donc, souvent, on le mange un peu trop mûr, trop mou, un peu trop pas mûr, trop dur. Et le moment exact, il est difficile. C'est pour ça qu'en fait, en le cuisinant, c'est beaucoup plus facile de l'avoir tout le temps bon, en fait. Et surtout, c'est un fruit qui se prête merveilleusement à la cuisine. Ça se saute à la poêle, ça se fait rôtir au four, ça se met dans un écrasé à la cuillère, ça va enrichir une sauce et lui donner un côté fruité très intéressant. Et c'est un fruit qu'on a trop tendance, des fois, à manger un petit peu tristement parce qu'il n'est pas souvent. Alors, pas toujours, il y a très bons abricots.
Mais c'est compliqué de les trouver bien mûrs.
C'est vraiment difficile.
À Paris, j'ai fait trois primeurs hier pour le trouver parce qu'ils sont cueillis avant maturité, on va se dire la vérité.
C'est tout le problème, en fait, des fruits, c'est qu'en fait, le critère d'acceptation des fruits pour le consommateur, c'est l'aspect. Et vraiment, là, il y a une pédagogie à faire du fruit moche, qui peut être juste délicieux.
Et qui est souvent meilleur.
Et qui est très souvent meilleur. Vous avez raison, qui est souvent meilleur, mais beaucoup des fruits sont triés par des machines optiques. Et c'est comme ça qu'on leur donne leur valeur. Et là-dessus, il y a vraiment un boulot à faire. Quoi.
Alors, vous qui êtes attentif à la texture et puis au côté scientifique de la cuisine, c'est vrai que l'abricot, comme beaucoup de fruits, rend de l'acidité à la cuisson, par exemple. Hein.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, mais là aussi, tout va dépendre de la maturité du fruit. Parce que plus le fruit est mûr, bien entendu, plus il est sucré, moins il est acide. Donc, on va aussi choisir la maturité du fruit en fonction de ce qu'on fait. Alors, l'abricot, même mûr, il y a toujours une certaine part d'acidité. C'est pour ça qu'il est très intéressant, par exemple, de mettre dans une vinaigrette une cuillère à café d'abricot écrasé.
Comme
la framboise, c'est tout à fait intéressant. Ou quand il est assez ferme, d'en faire des petits cubes, ça donne une texture et un aspect fruité. En fait, on a trop tendance en fait à ne pas oser mettre des fruits dans la cuisine. Il ne faut pas le mettre à toutes les sauces non plus,
mais bien équilibré,
mais bien
dosé.
Équilibré, c'est vraiment intéressant.
Tout à l'heure, je parlais d'un ceviche de maigre, par exemple, avec des framboises qui viennent titiller le poisson.
Typique, exactement. On peut faire la vinaigrette avec du jus de grenade.
Vous parlez du melon aussi, c'est la saison du melon.
Ah oui.
Alors attention le melon, parce qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi, selon vous. Hein.
Non, parce qu'en fait, le melon, il est très riche en eau, il a le défaut d'avoir des arômes qui sont très forts, mais qui sont, pour un tas de raisons, très sensibles à la chaleur, donc on oublie la cuisson, évidemment. Par contre, la chair du melon mixée fin, consistance et une longueur en bouche qui est tout à fait stupéfiante. On peut faire des veloutés, on peut faire des potages.
Gazpacho
de melon, absolument époustouflant, j'allais dire. Et c'est pas très compliqué à faire. On prend un melon bien mûr, évidemment, on le mixe, on citronne un tout petit peu, parce que les fruits, dès qu'on les coupe, dès qu'on les mixe, ils ont tendance un petit peu à se dénaturer. Donc avec l'acidification du citron, on stoppe un petit peu le phénomène. Et après, souvent, on n'a pas besoin de sucré. Hein,
moi, j'ai mis un peu de pastis dans le gazpacho.
Ouais, voilà, faut pas le dire.
Ce qui est très difficile avec
la
le
vodka,
melon,
ça marche très bien aussi.
C'est le choisir. Le choix du melon reste un casse-tête qu'on n'a pas encore réussi à résoudre. Ah, parce qu'extérieurement parlant, tant qu'on n'a pas goûté.
Le craquelé.
Oui, mais c'est pas suffisant.
Non, c'est vrai.
Laurent a une
bonne...
Le sentir.
Et la troisième imparable, c'est la chance.
C'est ça.
Et ben voilà. Et on a eu de la chance de vous recevoir. Merci
avec
les
plaisir.
Deux. Stéphane Lagorce, le grand précis des fruits à éplucher et leurs recettes sans pépins. Mieux connaître et mieux aimer les fruits qui nous entourent, c'est chez Homo Habilis. Merci Stéphane Lagorce.
Merci à tous.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Un poète peut en cacher un autre, attention, hein, avant d'accueillir Pierre Perret, retrouvons l'ami Petit Renaud. Ce samedi, Jean-Luc milite pour la réhabilitation de la tartine, en pique-nique bien sûr, et même pour le repas du dimanche soir. Bien le bonjour, copain de la tartine.
Amis de l'été, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous allonger sur une belle tranche de pain toasté pour goûter aux joies de la tartine du dimanche soir. C'est pile le moment où l'on n'a pas envie de cuisiner, de repasser à table après le bon déjeuner dominical. Alors en guise de crème bronzante, mes amis, je vais enduire votre corps d'une préparation de petits restes, vous savez, ces petits riens qu'on va chercher sur la carcasse du poulet rôti, les petits restes de pot-au-feu, de crustacés. Alors on va interpréter une sauce de cornichons et capres pour les uns. On va faire une mayonnaise bien relevée aux herbes parfumées pour d'autres que l'on va déposer sur le toast. Il faut avoir le geste large. Mais attention aux échappées belles sur le jabot, car en un claquement de doigts, la mayo prend ses jambes à son cou et se couche sur le gilet. Alors pour éviter cette catastrophe, moi je possède une technique imparable. Je dépose sur la préparation un deuxième toast de la taille de la première tartine. Et astuce, pour que rien ne bouge, je retiens le tout avec deux élastiques. Mais attention mes camarades, de ne pas avaler les élastiques, car vous risquez de faire des bonds jusqu'au lundi matin. Elle est pas belle, ma tartine du dimanche soir?
Ah, elle est belle et puis elle est rebondissante, c'est ça qu'on aime. Merci l'ami Jean-Luc, qui avait sorti d'ailleurs un ouvrage sur le sujet, 52 tartines pour le dimanche soir. Jean-Luc, c'est vrai que la tartine du week-end ou en pique-nique, c'est un incontournable,
mais
ça aussi.
Évidemment, que le toast soit grillé ou pas d'ailleurs, une bonne tartine, c'est quand même la base.
Mais c'est vrai, comme l'ami Jean-Luc, pensez aux élastiques. On retrouvera Jean-Luc Petit-Renaud la semaine prochaine, évidemment. Le temps de redresser la table pour accueillir Pierre Perret. On revient juste après ça. Tout, vous saurez tout sur l'ami Pierrot. On continue de se mettre à table ce samedi sur Europe 1. Alors en attendant de parler de l'été des restaurateurs avec vous, Charlotte, on écoute notre invité tiens, qui va arriver, Pierre Perret. Écoutez une très belle chanson d'actualité. C'est un carton d'ailleurs sur Internet. Plus de 2 millions de vues et d'écoutes. Et écoutez bien les paroles, les confinis. On retrouve l'ami Pierrot juste après ça.
Comment t'aider ces pauvres gens qui agonisent, qui attendaient qu'on leur vienne à la rescousse, pendant que les infirmières mouillaient la chemise, que les infirmiers faisaient suer burnous, pendant qu'ils couraient tous dans la panade, dans les couloirs encombrés de macchabées, les cherchaient pas pour soigner les malades, tous les docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être infinés. Déconfinés. Ils décrétèrent un jour que les vieux de la vieille, faut les achever à 70 balais, disant le contraire de ce qu'ils disaient la veille, quand cette grippette les faisait bien marrer. D'un air savant, ils venaient faire des tirades, remplis d'avis et conseils en poulet. Pendant que l'hosto croulait sous les malades, nos braves docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Y'avait le raout, celui qui les enquiquine, qui les traitait tous comme des diaphoirus. D'après lui, y a guère que sa chloroquine qui pourra foutre les chocottes au virus. La porte-parole, elle s'appelle Cybette, y'en a qui pensent qu'elle porte bien son nom. On sent bien que la moindre idée qui se pointe lui déclenche un ouragan dans le citron. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être infinés, déconfinés. Soir aux infos, y'a le ton du lot de sadique qui compte les morts et puis y'a le défilé des professeurs, des stars, des scientifiques, et puis le rouquin, la merloque, le cinglé. Et en fin de compte, on a su pour les masques qui étaient gérés par une bande de couillons. S'il en restait plus du tout, c'était parce que ils en avaient détruit 600 millions. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être infinés, déconfinés. Les infirmières qui gagnent des clopinettes, même pas au SMIC, galèrent à tour de bras. On récompense nos courageuses causettes d'applaudissements, de médailles en chocolat. Mes petits marquis, vous devriez avoir honte. La dignité chez vous, elle est en deuil. Pas une seule de vos promesses à la gomme ont un jour consolé leur portefeuille. Vous nous avez confinés, puis déconfinés, puis reconfinés. Mais vous vous resterez pour la vie déconfinés.
Déconfinés. Bonjour Pierre Perret.
Bonjour
Pierre Perret, merci d'être là. Mais c'est pas de la chanson, c'est du journalisme pratiquement, parce que tout est vrai hein, quand même.
Et il y a un peu des deux, effectivement.
C'est dingue.
Oui.
Magnifique et un vrai succès. La preuve que vous parlez vrai encore une fois avec vos mots et avec cet amour de la langue. Tout ce que vous racontez, c'est ce qui est arrivé effectivement. Et je suis d'accord quand vous dites, il y avait beaucoup de médecins à la télévision, c'est vrai, hein, beaucoup.
Bah, c'était
il y en avait beaucoup dans les hôpitaux, heureusement.
Un défilé permanent, bien sûr qu'il y en avait dans les hôpitaux, parce qu'il y en a certains qui m'ont dit, mais c'est faux ce que vous dites, on a travaillé.
Bah, bien, c'est vrai, on le bien sait sûr, bien, et on les remercie encore. Bon. Et on ne
mais il y en avait quand même un sacré serpentin de... oui. qui avait l'air d'adorer ça, de défiler à la télé. Ils ont trouvé le jeu intéressant, sûrement.
Vous adorez les mots, on vient de l'entendre encore avec cette chanson, et vous venez de sortir Aphorismes et Blues chez Adèle Édition. Alors, c'est un recueil de bons mots. Alors, j'adore. Il y en a un sur les cornichons qui est très court, qui est très simple. Les cornichons ne sont pas tous dans des bocaux. Point de suspension. Voilà. Hein, donc, ça, comme ça, pour ceux qui veulent prendre.
Et, c'est vraiment quand vous me regardez en disant ça. Non.
Et quand il lui a dit on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il est vite rentré dans sa coquille. J'ai l'impression que c'est un peu comme Aznavour, la vie de Pierre Perret. C'est-à-dire que vous entretenez ce muscle de l'écriture quotidiennement, que vous écrivez tous les jours.
J'ai jamais arrêté d'écrire. Voilà. Et parce qu'en plus, j'aime ça, c'est ma passion, j'adore ça. Quand je ne trouve pas, ça m'énerve, alors je m'acharne en plus. C'est pour ça que parfois, je mets 3, 4, 5 ans pour faire un album. Mais ça, cette chanson qu'on vient d'écouter, vite, c'est très rare. En 3 semaines, elle était bouclée.
Et elle a jailli.
Mais voilà, c'était parce qu'à chaud, sur l'actualité, à force de voir tous ces guignols le soir sur l'écran, ça m'a titillé un peu. Voilà.
Vous êtes un gourmand, Pierre Perret. Vous avez votre ronde serviette ici, vous êtes déjà venu. Quel est votre goût de la semaine, l'ami Pierrot ?
Des cuisses de grenouille sautées.
Oh ! Que vous avez faites vous-même ?
Oui.
Ah, ça c'est super. Ah, ouais. C'est vrai que vous avez sorti le petit Perret gourmand et puis plein d'autres livres de cuisine.
Oui.
Quel est votre plat canaille qui pourrait vous symboliser le plus, vous diriez ?
Oh, canaille.
Ou pas canaille.
Moi, je suis resté dans la nostalgie d'un des premiers plats que maman m'a fait, qui était le lapin au capre.
Ah, c'est beau.
C'est
ça.
Un lapin sauté avec des capres. Mais alors, rien que d'en parler, je le salive déjà à l'avance. Parce que la cuisine, c'est bon que si ça procure la jubilation. Sinon, il faut bouffer un sandwich.
Vous avez été élevé à ça, la jubilation au Café du Pont, à Castel-Sarrasin. Il y a de belles odeurs à chaque fois que vous imaginez un petit peu cette cuisine. Hein.
Oui, exactement.
On en parlera tout à l'heure. Vous avez eu le temps de retourner au restaurant depuis le déconfinement ?
Oui, je suis revenu voir Serge à l'Opportun, au Père Claude. Enfin bon, j'ai toutes mes petites cantines comme ça dans Paris. Oui, mais les malheureux, en ce moment, ils tirent un peu la langue parce qu'on sent qu'il y a une petite appréhension de la part des gens qui ne reviennent pas si facilement au restaurant. Et bon, moi, j'en ai réchappé. Je viens de vous citer 2 ou 3 endroits où je suis passé. Je ne suis pas encore mort.
Alors, justement, on en a parlé la semaine dernière avec Yves Candebordes. Nos restaurateurs mettent les bouchées doubles depuis la réouverture, mais la fréquentation, comme le dit Pierre Perret, est fluctuante. Comment va se passer l'été pour eux ?
Lui, c'est un très bon.
C'est un très bon, ça va, il a pas trop de soucis, Yves Candebordes. C'est vrai que ces salles sont bien remplies en ce moment, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et Charlotte, vous êtes allée prendre la température dans les cuisines et l'inquiétude demeure.
Oui, exactement, vous avez raison, Pierre. C'est un peu un été qui pourrait être meurtrier, hélas, pour certains d'entre eux. On parle souvent de 20 à 30% des restaurants qui pourraient baisser le rideau définitivement d'ici la fin de l'année. C'est d'ailleurs déjà le cas pour le Galopin, par exemple, de Romain Tichenko à Paris, ou pour l'un des restaurants de Julien Duboué à La Défense.
Et oui, il était venu nous parler de l'ouverture justement de ce restaurant ici. L'inquiétude n'est pas la même partout en France, en revanche.
Non, quand même, parce que comme 98% des Français ont déclaré qu'ils partiraient évidemment en France cet été, donc les restaurateurs de bord de mer, à la campagne, à la montagne, devraient pouvoir retravailler correctement, on l'espère. En revanche, les restaurateurs en zone urbaine s'interroge, est-ce que les villes vont être désertées ? Est-ce que les touristes français ou européens vont revenir dans les villes visiter ? Est-ce qu'ils iront au restaurant ou pas ? Parce qu'il y a eu le succès des terrasses élargies, ça c'est sûr, mais hélas, elles ne compensent pas vraiment les pertes, surtout ceux de la région parisienne, qui sont restés fermés beaucoup plus longtemps que les autres.
La région parisienne souffre beaucoup. Quelle solution cet été pour les restaurants des villes ? Bordeaux, Lyon, Nancy, Toulouse, toutes les villes.
Ils ont actuellement un choix à faire, même un pari en gros, soit ils ouvrent dès maintenant pour tout l'été, soit ils attendent la rentrée de septembre, parce que c'est un peu l'affaire personnelle de chaque restaurateur. Les cafés et les brasseries, par exemple, ils ont rouvert assez rapidement, mais c'est un petit peu plus compliqué, par exemple, pour les chefs ou ce qu'on dit les restaurants d'auteurs, parce que certains ne se voient pas vraiment ouvrir pour un mois en juillet, pour refermer en août, qui est traditionnellement le mois des congés dans la restauration. Donc voilà, la question se pose. Simone Tondo, par exemple, le chef de Racine, lui, il a décidé de ne pas ouvrir. Il n'a pas de terrasse, il préserve son personnel et puis on le reverra en septembre.
Et beaucoup de chefs qui rouvrent ont dû revoir leur partition aussi, Pierre Perret. Il y a pas mal d'idées, tiens, écoutez.
Oui, parce qu'il y a certains chefs, du coup, qui se sont creusés les méninges, ils ont trouvé une troisième voie, ils ont bousculé leur cuisine et c'est plutôt réjouissant. Ils proposent d'autres offres, en général plus accessible financièrement et plus décontracté dans l'assiette. Donc c'est l'occasion de découvrir des cuisines qui sont un petit peu hors budget habituellement. Par exemple, on peut aller goûter la cuisine de l'excellent Christophe Pelé au Clarence.
Un des plus grands chefs parisiens du moment. Hein.
Qui propose une formule...
Alors, faut que j'y aille.
Ah oui, voilà. Ça va vous plaire.
On va y aller ensemble, tiens.
En bas des Champs-Élysées.
Oui, d'habitude, il y a des menus à plusieurs centaines d'euros. Oui, hein, oui. Et là, c'est il y a une formule déjeuner rapide à 55 euros ou un panier repas à 19 euros. Et si vous êtes du côté de Marseille cet été, le doublement étoilé Alexandre Mazzia, qui a deux étoiles, s'installera en parallèle dans un food truck. Et donc, il fera des glaces à l'italienne, des sandwichs, des cornets tempura, etc. Donc, des choses très accessibles en parallèle qu'on pourra éventuellement emmener en pique-nique, si on veut. Et puis, à Paris, le Châteaubriand, il fait des sandwichs, mais alors totalement addictifs, hein, je vous conseille.
Il y a des idées.
Voilà, ils veulent croire à leur résilience.
Les chefs ne manquent pas d'idées.
Voilà, ils ont de quoi vous accueillir les bras ouverts en ville cet été, donc soutenons-les et puis allez au resto.
Et beaucoup continuent la vente à emporter aussi.
Absolument.
Hein. On peut en profiter aussi.
Merci Charlotte Langrand, que nous lirons demain dans le journal du dimanche. Et puis Pierre Perret l'a dit, il est allé au restaurant, il est là, il est bien vivant avec nous, hein, l'ami,
oui,
l'ami
Pierrot.
Il y en a d'autres prévus, justement, des belles tables. Vous allez partir en vacances, vous restez dans votre belle Seine-et-Marne.
Je prépare dans ma maison tous les futurs récitals que je vais faire après Pleyel.
10 et 11 octobre à Pleyel.
Voilà.
Mes adieux provisoires de Pierre Perret. Provisoires,
voilà, exactement. Mais ça sera mes adieux provisoires. C'est moi qui vais faire la cuisine là, à mes musiciens, parce qu'on va répéter plusieurs jours à la maison.
Oh, et je vais passer alors.
Oui, alors... ne le répétez pas, mais ils arrivent en courant.
ils sont déjà en route.
Et je répète tout le futur récital que je ferai là et dans toutes les villes qui vont suivre après. Donc, je ne vais pas trop bouger de chez moi.
Oui, il y aura Lyon, il y aura plein de villes. Hein. On mettra la tournée sur europe1.fr, mais 10 et 11 octobre à la salle Pleyel. Et on sera là pour venir vous applaudir.
J'espère.
Pierre Perret, vraiment, on sera là. On revient juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle et on se mettra à table avec un classique de la cuisine chinoise. Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire, les amis.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pousse d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Merci d'écouter la table des bons vivants et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous avons pique-niqué avec de belles recettes. Le poivron nous en a fait voir de toutes les couleurs. Et puis, nous allons partager le plat du jour, un poulet à la chinoise, dans un instant avec Pierre Perret, qui est avec nous jusqu'à 12h30. On est ravis de vous accueillir à notre table, Pierre Perret. 10 et 11 octobre à Pleyel. Adieu provisoire, Pierre Perret. Et comme il n'arrête jamais, il vient nous voir aussi avec Aphorismes et Blues, un joli livre. Tiens, encore un aphorisme de Pierre Perret. Mon GPS sensoriel me dit que le plus court chemin de la gourmandise entre ma bouche et ma main droite est l'éclair au chocolat. Et pourquoi pas la vanille ?
Why not ?
On en trouve, vous n'avez pas remarqué qu'on en trouve de moins en moins les éclairs à la vanille ?
Oui,
mais parce que c'est plus dur à faire, je pense que la qualité de la vanille étant tellement importante.
Vraie,
la vanille,
c'est cher.
La vraie vanille vaut la peau du cul. Et donc, il y a beaucoup de gens qui hésitent un peu à...
Et de l'arôme de vanille, c'est pas pareil. Hein.
Et bon, ça a de la daube, ça.
Vous cuisinez beaucoup, Pierre Perret. Quel est le plat qu'on vous réclame le plus quand on vient dîner chez vous ?
Ah, très souvent, mais... Les copains me disent fais-moi un cassoulet, ça, j'y échappe pas. Mais moi, il me faut 3 jours pour faire un cassoulet, donc je le monte 3 jours avant. Il mijote 2 fois 20 minutes sur la braise l'hiver dans ce qu'on appelait auparavant dans le sud-ouest la grésale, un grand plat en grès dans lequel on met ses haricots, la saucisse, le confit, les couanes, etc., etc. Et ça, bon, quand ça a cuit 3 jours et que ça a perdu la moitié de son volume.
Oh là là.
C'est là qu'on bat, on n'arrive plus à parler.
Et on casse la croûte aussi plusieurs fois.
Et on casse la croûte, et c'est ça. L'étymologie de casser la croûte, ça vient de là. Les premières fois. Il faut casser 7, 8, 10 fois la croûte. Et alors là, bon,
c'est ce qui donne la consistance au cassoulet. Est-ce que vous désamorcez les haricots pour éviter la musique après ?
Oui.
Hein, c'est ça, il faut désamorcer.
Je mets un tout petit peu de
bicarbonate. Eh oui, c'est ça.
Voilà.
C'est l'heure de se mettre à table.
Et un peu de vinaigre.
Ah.
Une lichette de vinaigre.
Ah, c'est pas mal.
Avant
ça.
La fin.
Ah oui, non mais.
Ah oui.
Allez lire le petit Perret gourmand. Vous aurez plein de belles recettes de Pierre Perret. Et on continue de se mettre à table.
J'ai peur qu'il soit comme moi, épuisé.
Non, on le trouve encore.
Ah bon. Ouais.
Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest, nous a réservé une table au Bonheur du Palais à Bordeaux. Pierre Perret, vous connaissez cette table ou pas ?
Eh ben non.
Eh ben moi, je la connais.
Vous la connaissez, Olivier?
Ah oui, je la connais. C'est une jolie table asiatique chinoise. On parle de la cuisine chinoise, c'est pareil. C'est les cuisines chinoises. Mmh. Et là, on est dans la cuisine cantonaise.
Si eh ben depuis 33 ans exactement, les frères Chen sont derrière les fourneaux. Ils cuisinent à quatre mains les spécialités chinoises de la province du Sichuan et du Guangdong, qu'on appelle le canton. Eh bien, pour nous, un poulet au wok qu'ils mènent à la baguette. Écoutez.
Alors, on va faire marcher le dragon, hein, ça s'appelle le dragon. C'est une colonne de feu très puissante qui va chauffer le centre du wok. Et là, il va faire dorer les ingrédients. Oignons, poireaux, les pousses de bambou, les champignons. Alors, on voit que ça commence à être doré, hein, même légèrement cramé sur le bois. Ça donne un goût fumé très prononcé et on va le réserver de côté. Maintenant, on va remettre un peu d'huile et cette fois-ci, on va faire revenir les morceaux de poulet qui sont au préalable légèrement macérés. Et il ajoute maintenant la sauce d'huître qui est une sauce qui est toute prête qu'on peut trouver sur le marché. On ajoute en dernier les légumes qu'on a fait revenir tout à l'heure et cet ensemble-là, on le réduit légèrement. On épaissit avec de la maïzena liquide. C'est en moins de, on peut dire, de 5 minutes, c'est fini le plat. Là, c'est de la cuisine chinoise très simple. Ce plat-là est assez courant.
Les baguettes.
Allez-y.
Et on va goûter.
Je pense que le secret, c'est de saisir les éléments et les viandes à part. Et ensuite, les rassembler ensemble.
Voilà, pendant que vous parlez, moi, en fait, je mange.
Mais vous avez bien raison. Bon appétit. Hein.
Merci les frères Chan et merci à Stéphane Place pour ce beau reportage. La sauce huître, c'est vrai que ça peut étonner, hein, comme accord Pierre Perret avec du poulet, mais c'est un condiment typique de la cuisine chinoise, ça.
Oui, oui, qui est très complémentaire et très goûteux.
Ça marche très bien. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier Pouls?
La sauce huître, elle amène un petit côté un peu caramélisé, un peu sirupeux, un peu sucré-salé. Et si on veut rester en accord local, moi, je ferais bien un petit clin d'œil à une appellation qui a un peu de mal à s'imposer justement à table en dehors du foie gras et de Noël. Ce sont les vins liquoreux, les vins de Sauternes ou de Barsac. Et on les fait en plus un petit peu moins liquoreux maintenant. Et je pense qu'un joli Barsac un peu frais avec cette cuisine chinoise, c'est pas mal, mon cher Pierre.
Merci, Olivier. Allez, ne bougez pas, on revient avec les réponses à vos questions sur les répondeurs du 3921. Et l'ami Pierrot, Pierre Perret, sera là avec nous pour nous aider à dresser la table. A tout de suite.
Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Tu reçois gentiment, c'est agréable. Je reçois pour affaire, donne pas des matinées enfantines.
Depuis 11h, nous sommes installés aux quatre coins de la nappe. Hein. Charlotte Langrand, du Journal du Dimanche, Olivier Pouls et Pierre Perret, notre invité bon vivant. Pierre, vous aimez cuisiner les saisons. Quelle est votre recette du moment? Tiens, ça y est, les courgettes sont là, les tomates, les aubergines, les abricots.
Alors moi, une salade toute bête. Moi, les petites tomates cerises, là, un peu en ballon de rugby, tu vois, les petites
un peu ovales,
comme
ouais.
Ça, voilà. Émincées un peu.
Ouais.
Et avec quelques cornichons émincés, assez égouttés, mais très émincés. Et alors, ce qui me ravit le plus le palais, c'est d'émincer des radis.
Il y a du croquant,
voilà.
Là.
Voilà. Vraiment, avec une bonne vinaigrette, à l'huile d'olive. Mais ça, c'est sublime.
Les bons produits et un assaisonnement simple, en
exactement.
Fait. Exactement.
Hein. Un oignon blanc émincé dedans. Avec ça, on fait une petite salade comme ça. Radis, oignon blanc, cornichons. Tomate.
Et ben voilà, ce sera la salade de Pierre Perret.
C'est un bonheur. Si vous avez une feuille de basilic à faire tomber dessus.
Ah, ça marche le basilic.
C'est le bonheur absolu.
Je vous en ai fait une petite qui est très vinaigrée, moi. En revanche, tomate, vinaigre, huile d'olive et un petit peu de gingembre. Ça, c'est le truc de Robuchon qui mettait toujours un peu de gingembre dans la salade
et
de tomate.
Oui, je sais, le pauvre Joël. Oui.
Et du basilic. Alors, c'est l'heure de répondre aux questions des auditeurs, mais je suis embêté parce que normalement, on demande à nos invités de poser une question à laquelle on peut répondre. Mais vous savez tout faire en cuisine, Pierre Perret.
Pas du tout.
Est-ce qu'il y a un truc sur lequel on pourrait vous aider? Un truc, une astuce en cuisine?
Quand vous avez un foie de veau sur la poêle en train de cuire, dont vous voulez pas rater la cuisson parce que moi je l'aime pas bleu, cru, etc. Mais il y a une cuisson bien précise,
oui, rosé,
quand même,
hein.
Un peu légèrement rosée, etc. Et quand à ce moment-là il y a un clampin qui vous appelle au bigorneau et que vous allez répondre et que vous rentrez et que votre foie il ressemble à une soutane de curé, eh ben c'est plus du boulot. Voilà.
Non, mais pourquoi vous répondez?
Mais pourquoi vous
C'est voilà. Ça la recette.
Il y a des moments où on répond pas quand même.
Mais il y a des fois, c'est pas la première fois que je me dis, mais t'es con.
Oui, alors il faut le retourner et tout ça, mais dans ce cas-là, il faut le couper et il faut compter, comme dit Guy Savoie, sur l'inertie qui est dans le cul de la casserole. Et en l'occurrence, dans le cul de la poêle, là, effectivement.
Oui, oui.
Hein, parce que c'est
couper
ça.
Le feu, il faut couper le feu et ça finit de cuire tranquillement.
Ça va continuer de cuire un petit peu tranquillement et là, il sera pas,
mais
pas carbonisé.
On peut pas mettre de couvercle parce que ça le fait bouillir.
Oui, exactement. Et c'est plus du tout la même texture.
Voilà.
Ah non, il est sur le coup, hein, Pierre Perret.
Oui, puis, il ne faut pas que l'important reste trop longtemps au bigorneau, comme
non
vous
plus.
Dites. Hein.
Oui, faut lui
non,
dire.
Mais il y a toujours un tas de chieurs qui vous appellent au mauvais moment.
Une question maintenant au 39-21.
Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe des Bons Vivants, c'est Jérémy de Saint-Germain-sur-Moine. J'ai une question au sujet des camemberts au barbecue. Moi, les copains, sommes des adeptes depuis des années, mais on n'a pas la même technique. La mienne, c'est le camembert dans la boîte en bois, puis recouvert d'alu. Mon pote, c'est le camembert dans l'alu, puis dans la boîte qu'il a également recouverte d'alu. Merci de trancher une bonne fois pour toutes pour savoir qui a raison. Merci, bonne émission.
Merci Jérémy du Maine-et-Loire. Alors, on va essayer de répondre à la question. Le camembert, c'est vrai qu'au barbecue, c'est délicieux.
Oui, mais là, pour le coup, son pote, il en fait un peu beaucoup.
Oui.
Hein. Il y a un petit excès de zèle. Et puis surtout, le contact des aliments avec le papier alu, c'est déconseillé.
On oublie maintenant,
donc,
faut arrêter.
La bonne formule, c'est effectivement le camembert dans la boîte dans l'alu.
Exactement.
Il n'y a pas besoin de s'embêter à faire autre chose.
Et sans le plastique, bien entendu.
Ah bah oui, ça,
oui évidemment,
bien évidemment,
ça va sans dire.
Quelques tours quand même de papier alu pour éviter que ça ne brûle. Et puis on le laisse sur le coin du barbecue tranquillement.
Voilà, alors pas une chaleur trop vive non plus. Le barbecue, on le répète souvent à cette table, mais c'est vrai que quand les braises sont trop vives, effectivement, ça va carboniser et tout ça. Donc là, il faut que les braises soient légèrement mourantes pour qu'on ait une belle répartition de la chaleur. Vous êtes adepte du barbecue, Pierre Perret ?
Oui, oh bah j'ai ce qu'il faut chez moi. J'ai une broche surtout.
Ah oui, ça c'est magnifique.
J'ai beaucoup de choses à la broche.
La cuisine à la broche, quel bonheur. Et dans le camembert qu'il a fait au barbecue, notre ami Jérémy, on peut y mettre aussi des graissins, on peut y mettre des herbes de Provence, des vrais, hein, parce qu'il y a même maintenant une appellation d'origine protégée des herbes de Provence, donc on sait ce qu'on met. Ça peut bien relever le camembert
même
aussi.
Rajouter une petite goutte de cidre pour se la jouer locale, ça marche aussi.
Enfin, moi, le camembert, je me l'allonge sur la menteuse, là, tout seul. Il n'y a besoin de rien.
Il ne faut pas oublier le vin avec le camembert, on est d'accord, hein.
Ah, ouais, il y a tellement de choses qu'on peut mettre avec.
Et
oui,
ben
ça,
tiens,
c'est vrai.
L'heure de trinquer avec Pierre Perret se rapproche et les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls arrivent. A tout de suite.
Laurent Mariotte.
Auteur, compositeur, interprète, cuisinier averti, il nous régale depuis midi. Pierre Perret est avec nous jusqu'au journal de midi et demi. Il vient de sortir Aphorismes et Blues aux éditions Adèle. Plein de bons mots et de belles pensées. Et puis, il sera pour ses adieux provisoires. Attention, les 10 et 11 octobre à la salle Pleyel à Paris. Eh bien, on y sera, je vous promets, au premier rang, s'il y a de la place encore. Mais on va zéro.
Ouais,
un strapantin, on s'en fiche, mais on veut être là en tout cas. Charlotte Langrand du Journal du Dimanche est avec nous. Et Charlotte, Pierre Perret, a eu un grand privilège dans sa vie. C'est qu'elle est venue vous voir dans votre maison et que vous lui avez fait visiter votre cave. C'est ça, Charlotte ?
Mais oui, j'étais venue vous interviewer pour le JDD à propos du vin.
Oui,
vous m'aviez emmenée dans votre cave et je me suis retrouvée devant une porte colossale d'église que vous appelez la porte des fidèles. Est-ce que vous pouvez raconter cette histoire ? Pourquoi vous l'appelez comme
vrai,
ça ?
C'est une porte qui date du XVIe siècle et que j'avais achetée à un curé qui voulait s'en séparer. Il voulait une porte moderne dans sa cathédrale. Et celle-là était géniale, donc je l'ai tout acheté. Et j'ai mis ça comme entrée de ma cave et que j'ai appelé l'entrée des fidèles, bien sûr, parce que j'ai quelques fidèles qui, de temps en temps, viennent poser les nougats dans ma cave et délier leurs menteuses.
Parce que vous êtes très fidèle à votre cave, c'est ça.
Voilà.
Mais ça, c'est une belle fidélité. Olivier, nous avons parlé et mangé pique-nique tout à l'heure. J'imagine que vous n'oubliez jamais de mettre une bonne bouteille dans le panier et vous allez nous faire un petit panaché de dégustation.
Alors, même goûter. Alors, bonne bouteille, évidemment, mais surtout, je n'oublie pas de mettre le tire-bouchon dans le panier, parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver en pique-nique, d'avoir les bouteilles et rien pour les ouvrir.
Ça, c'est vrai.
Alors, toujours le tire-bouchon, indispensable. Regarde, il est là. Alors, le pique-nique, c'est vrai que ça appelle des vins, on va dire, plutôt simples. Simples, c'est pas péjoratif, ce que je veux dire. C'est pas bas de gamme ou pas terrible. Simples sont des vins de fruits immédiats qu'on va boire pour la gourmandise, peut-être un peu frais, d'ailleurs, mais c'est une des grandes vertus quand même du vin que d'être digeste et buvable.
Alors une petite sélection que Pierre Perret a commencé à déguster, tiens.
On pourrait commencer, alors vous vous souvenez, je vous avais parlé des pétillants naturels il y a quelques semaines, c'est ce qu'on appelle la méthode ancestrale, c'est-à-dire des vins qui terminent leur fermentation en bouteille. C'est pas la méthode champenoise, hein, donc c'est une fermentation qui se finit en bouteille, il reste un tout petit peu de sucre mais pas beaucoup, il y a de la bulle, hein, c'est un vin effervescent. Et là je vous en ai apporté un, cher Pierre Perret, qui est un gamay. Donc le cépage du Beaujolais,
oui,
qui est signé Romain Père, qui ne fait que 9,5 degrés d'alcool. Donc c'est un vin très digeste, très estival, très fruité. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est agréable et pas trop sucré. Parce que ces vins-là, en général, le premier reproche que je fais là-dessus et qui sont rébarbatifs un peu à mon palais, c'est parce que c'est trop sucré. Et celui-là, eh ben, j'achète.
Oui, il est franc, il a
dit. Une belle notion terroir. Hein, c'est un gamay sur granit et on sent cette minéralité quand même qui ressort dans le vin.
Pas faux cul pour deux ronds.
Non, voilà, parfait pour démarrer notre pique-nique.
Un petit coup de blanc peut-être ?
Ben, des cépages. Moi, il y a un cépage que j'aime bien, dont on ne parle pas beaucoup en Alsace, c'est le Sylvaner, par exemple, qui donne des vins, pour le coup, assez francs, assez gourmands, très estivaux. On parle des Riesling ou des Gewürz, mais on oublie un peu le Sylvaner. Ça ne coûte pas très cher. Hein, c'est des vins autour de 7-8 euros. C'est très accessible. On pourrait
Sont moins chers que les Gewürz.
Bien sûr. Et puis surtout, ils sont plus droits. Si vous n'aimez pas le sucre, là, pour le coup, vous êtes servi par la tension du vin. Puis on pourrait prendre un vin du sud de la France à base de roll, si on veut quelque chose d'un peu plus gras.
Ça me rappelle un peu les Viognier, moi. Ça.
Oui, c'est vrai. C'est un côté très floral, très enrobé. Voilà.
Si nos auditeurs préfèrent le rouge, Olivier ?
Eh bien, le rouge, Pierre Perret, alors on pourrait aller dans votre cave choisir un grand Bourgogne ou un grand Bordeaux, mais moi, je fais plus simple. Le nord de la vallée du Rhône, avec la Syrah croquante, juteuse et poivrée de l'appellation Crozes-Hermitage, par exemple.
Ça, c'est merveilleux.
Ben voilà, j'en ai un à vous offrir, là. Ça s'appelle la cuvée L'Esprit. C'est un millésime 2019. On le boit sur sa jeunesse. Là aussi, un tout petit peu frais. Et vous voyez comme vous avez ces arômes de poivre, ce côté très gourmand, très, très croquant en bouche. Eh bien, moi, ça fait mon bonheur.
Ah oui, moi, je préfère les boire légèrement frais, autour de 12, parce que sinon, je trouve, surtout l'été, très rébarbatif au palais.
Oui, ça peut être capiteux, quoi.
Les vins, ouais. Oui, trop chaud.
On les met dans la glacière, même les vins rouges. Quand on dit chambré, en général, on est déjà trop chaud. Donc, même les vins rouges en pique-nique, dans la glacière, 10-12 degrés, ça va se réchauffer très vite dans le verre.
Eh bien, merci Olivier. Et cher Pierre Perret, ça y est, c'est l'heure de passer sur le grill du questionnaire des bons vivants.
Dieu me chatouille. Ah, ça...
Alors, vous avez déjà répondu au questionnaire traditionnel, on l'a un petit peu changé pour votre nouvelle venue. Pierre Perret, vous avez été élevé au Milassine. Qu'est-ce que c'est le Milassine ?
La Milassine. La Milassine, c'est le petit gâteau légèrement sucré qui découle du mia qu'on fait quand on tue le cochon. Parce que quand on tue le cochon, on fait le mia dans le sud-ouest. Et le mia, c'est avec de la farine de maïs et le gras du cochon, du lard. Et ça, c'est délicieux. Et alors, la Milassine, ben, c'est le gâteau qui accompagne la fête du cochon. Et alors, c'est légèrement différent. Je donne la recette dans mon bouquin.
Oui, vous mettez de la fleur d'oranger et du rhum dedans.
Et je mets un peu de fleur d'oranger et de rhum. Et quand le coude se lève un peu trop, il y a un petit peu plus de rhum que de fleur d'oranger, mais ça, il y a des gens qui sont plus adroits que moi, quoi. Ils peuvent équilibrer mieux.
Vous avez chanté le représentant en confiture.
Oui.
Vous faites les vôtres ?
Et oui, parce que j'ai la chance vraiment en Seine-et-Marne là, d'avoir beaucoup de fruitiers. J'ai des pruniers, des poiriers, des pommiers, des cognassiers. Je fais de la gelée de coing et pommes. Et ça, c'est un grand délice. Et les gourmands qui viennent mettre les pieds sous la table à la maison, ben, le matin, ben, ils réclament, quasiment ils réclament. Voilà.
Allez voir cette chanson sur Internet, Le représentant des confitures. Il y a un extrait où vous la chantez dans une émission.
Je suis représentant de confiture.
J'ai toujours les semelles très dures. Elle est très, très marrante, cette chanson. Quel est le premier plat que vous avez cuisiné, Pierre Perret ?
Ben, je crois que c'est le lapin de maman.
Au Capre ?
Oui, le fameux. C'est ma madeleine de Proust.
On n'en mange plus du lapin maintenant, c'est un peu passé de mode. Rare.
Alors que c'est bon,
ah, oui.
C'est tellement bon, mais c'est depuis que les enfants ont des animaux domestiques et des lapins, c'est ça ?
Eh ben oui, mais il ne faut plus rien manger parce que vous savez que l'œuf, ça sort de quelque part aussi.
Il paraît.
Alors, il y a tout le monde qui souffre quand on mange, même les salades,
même les carottes,
des fois,
alors,
même les carottes.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Pierre Perret ?
Ben, il faut déjà des gens qui soient attentifs à ce qu'ils mangent. J'ai horreur d'avoir quelqu'un à table qui se goinfre.
Qui s'empiffre.
En parlant, et surtout quand il dit des choses emmerdantes en plus. Si jamais quelqu'un peut faire preuve d'un minimum de bons mots et prouver qu'il a du goût et souligner les choses qu'il mange parfois, parce que c'est très agréable pour celui ou celle qui a cuisiné. Ben voilà, c'est ça les convives idéaux.
La bonne table. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Vous en avez connu beaucoup des Torboyaux dans vos tournées, dans votre vie ?
Au début, quand j'étais fauché dans mes tournées, que je gagnais 3 francs 6 sous, effectivement, je tombais des fois dans des endroits, fallait s'accrocher aux branches, quoi. Mais, et surtout, les gens qui voulaient vous faire découvrir le petit cru du coin que... Oh putain
On connaît tous celui-là. Connais un petit producteur.
T'as les boyaux qui tricotent des napperons, comme je dis dans ton boyau, justement.
Ça. C'est exactement ça. Et pour finir, Pierre Perret, vaisselle cassée, c'est la fessée. Vaisselle foutue.
Pompon cucu, évidemment.
Merci Pierre Perret d'être venu à la table des bons vivants.
Merci de m'avoir accueilli parce que c'est le genre d'endroit où j'irai toujours et particulièrement chez vous.
Eh bien, vous avez votre ronde serviette à la vie ici, vous le savez. Aphorismes et blues, Pierre Perret aux éditions Adèle. 10 et 11 octobre, les adieux provisoires de l'ami Pierrot à la salle Playel et en tournée ensuite dans toute la France. Merci à toute ma bande de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourot à la rédaction en chef, Julien Amat à la rédaction. Merci Jean-Luc Arblad à la réalisation, Agnès Vaudin à la programmation. Merci beaucoup Charlotte Langrand du Journal du Dimanche.
Merci
camarade Olivier
Pouls. Merci à vous, quel plaisir.
On vous retrouve chez l'ami Mathieu Noël. Rendez-vous sur europe1.fr pour les podcasts et les recettes. Et puis attention hein, les copains, au marché, au restaurant, dans la vie, continuons à respecter les gestes barrières et cuisinons, faisons ripaille. Bon week-end sur Europe 1 et à samedi Justine.
À samedi Laurent, et n'oubliez pas de laisser toutes vos questions cette semaine sur le répondeur d'Europe 1, le 39-21, 50 centimes la minute. En attendant, votre journée continue avec l'arrivée de Fabienne Lemoyle dans quelques minutes pour votre journal de la mi-journée. Et à 15h, vous retrouverez Isabelle Morizet qui reçoit aujourd'hui Patrick Sébastien dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi 26.